With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et si courir beaucoup pour maigrir et garder la forme était totalement idiot? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied et de mode de vie sportif, hein, comment nous avons introduit le sport dans nos vies, comment il change nos vies, hein, parfois, comment en tout cas il nous permet d'être de mieux dans notre corps, de mieux dans notre tête, comment on se sent mieux tout simplement, mais parfois en faisons-nous pas un petit peu trop, parfois avons-nous une mauvaise image de la course à pied et parfois pensons-nous que c'est la solution à plein de choses. Et bien c'est un petit peu la vie de mon invité du jour, le docteur Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale et spécialiste des questions de sport, de nutrition. Et sur son site, hein, quand on va dessus, il a une phrase choc: se priver de nourriture plus s'épuiser à l'entraînement égale s'engraisser. Alors oui, ça paraît totalement paradoxal, ça paraît contre-intuitif, on se dit que quand on veut perdre du poids, eh ben il faut bouger, il faut manger moins, et pourtant, hein, on en a discuté, il va nous expliquer pourquoi c'est un comportement qui est tout simplement idiot. Et vraiment, hein, je lui ai demandé si c'est idiot, pourquoi et comment on doit faire. Alors il démonte dans cet épisode certaines croyances, nous avons longuement parlé du métabolisme, de comment fonctionne notre corps, de ce dont il a vraiment besoin, de comment on devrait s'en occuper, parce que c'est vraiment ça dont on a parlé, vraiment comment on s'en occupe, parce que le métabolisme, hein, est fait de plein de choses, c'est-à-dire que comment notre corps fonctionne, de quoi il a besoin, de quelle énergie il a besoin, de quel carburant il a besoin et comment on doit lui apporter et comment on doit en prendre soin, avec tout un tas d'aspects, hein, dont nous avons parlé et qui vont influencer sur notre capacité à courir, sur notre capacité à performer, mais aussi sur notre, finalement, notre vision et nos sensations que nous pouvons avoir. Et alors là, quand on parle de sensations, de vision du sport, de vitesse aussi, nous en parler de notions comme l'endurance mentale, de la VO2 max, de VMA, de fractionné aussi, nous a dit pourquoi le fractionné était potentiellement idiot dans la manière dont il était fait, et surtout finalement, même s'il ne le dit pas vraiment dans ces termes-là, mais on peut le comprendre, pourquoi la plupart des plans d'entraînement finalement ne servent pas à grand-chose, parce qu'il faudrait les personnaliser, et il va nous expliquer exactement pourquoi il faut aller dans la personnalisation en prenant des exemples vraiment très frappants montrant que ce ne sont pas les sportifs qui font le plus de sport, qui font le plus gros volume de sport, qui sont en meilleure santé, parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Et nous avons aussi discuté de notre rapport à la vitesse, de notre rapport au volume d'entraînement que nous pouvons avoir, et il nous met aussi dans ce cadre-là, en garde sur notre équilibre de vie, vraiment notre équilibre de vie, et de savoir si la course nous rend heureux, ou si on ne devrait pas faire autre chose, ou en tout cas, courir moins. Et c'est un épisode qui, là-dessus, je pense, va vous faire réfléchir, parce que bon, le docteur Denis Boucher est connu pour son franc-parler, hein, il est connu pour sa manière de s'exprimer qui va un petit peu déranger, un petit peu va aller à contresens, il le dit lui-même, en fait il serait pas très bon en marketing pour vendre des t-shirts avec des marques qui nous poussent au dépassement, mais en fait il veut surtout nous amener sur une pratique dans laquelle on respecte notre corps, on respecte tout simplement comment nous fonctionnons, et en respectant ça, et nous remettons un petit peu les pieds sur terre sur notre niveau réel, mais aussi sur ce que nous sommes capables de faire, et à partir de là, c'est là où on peut arriver aussi sur une nouvelle progression, c'est-à-dire que l'on met bien tous les bons ingrédients dans le bon sens, et à partir de là, on peut progresser vraiment sereinement, sans s'épuiser, parce que c'est vraiment ça le cœur de la discussion, c'est comment on arrive à mieux manger, à mieux courir, à mieux vivre, sans s'épuiser et en étant heureux. Mais avant d'attaquer cette discussion qui est assez longue, hein, je dois vous prévenir, ça vous fait une belle sortie longue, je vais remercier d'abord les patrons, hein, ceux qui financent le podcast par le biais de Patreon, hein, vous faites patreon.com/km42, dans tous les cas je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, et vous pouvez financer à partir de 1 euro par épisode. Oui, parce que maintenant c'est en euros, et le site est même passé en français, donc vous pouvez venir financer à partir de 1 euro par épisode, et en fait ça vous donne mon journal d'entraînement, tous les lundis vous avez un nouveau flux RSS dans lequel va remonter, un nouveau flux de podcast dans lequel vont remonter chaque lundi un nouvel épisode, épisode avec mon journal d'entraînement dans lequel je détaille comment je cours, quels sont aussi mes préparatifs et aussi comment je vois un petit peu l'avenir du podcast. Je parle des nouveaux invités, je parle aussi de comment je veux faire évoluer les choses, mais aussi de mon futur programme d'entraînement. Et puis vous avez ces épisodes-là, hein, les épisodes du mercredi, sans la pub, voilà, sans la pub, sans aucune pub. Mais je vous rappelle que s'il y a de la pub, et s'il y a Patreon, et s'il y a d'autres méthodes de financement, c'est parce que mon projet à moi, c'est d'évoluer, de changer de vie petit à petit et de devenir un sportif professionnel à ma manière. Alors vraiment, quand je dis à ma manière, c'est parce que, bien entendu, je ne serai jamais le champion de trail ou le champion de course à pied qui va gagner toutes les courses, etc. Mais je pense que nous avons chacun notre manière de pouvoir vivre notre rêve. Et mon rêve à moi, quand j'étais gamin, bah, c'était de faire du sport beaucoup plus, de faire du sport dans ma journée. Je ne m'imaginais pas vivre assise dans un bureau, je ne m'imaginais pas vivre à travailler toute la journée sur un écran qui, pour moi, à l'époque, bah, ça n'existait pas vraiment non plus. Et donc, je voudrais retourner à ce rêve d'enfant, vous voyez, à ce rêve d'enfant, par le biais de la course à pied, mais aussi par le biais de tout ce qui j'ai monté autour du podcast et qui est en train de se structurer, et notamment le Hamsters Running Club. Mais avant de vous parler du Hamsters Running Club, je voudrais d'abord bah, vous remercier pour vos dédicaces hein, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, les petites photos que vous m'envoyez dans les stories, vous faites des tweets en mentionnant @BertrandSoulier ou le hashtag KM42Podcast. Ça me fait toujours plaisir, ça permet de montrer aussi où est-ce que vous courez, comment vous courez, parfois de jour, parfois de nuit, parfois très loin, très 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 loin à l'étranger. Hein. Vous êtes nombreux à écouter le podcast à l'étranger. Hein. On a des Mexique, Californie, Norvège. J'en oublie, mais dites-le-moi hein, si j'en oublie des pays, hein, bien sûr, parce qu'il y a la France, il y a la Belgique, Suisse, beaucoup de Suisses, Luxembourg, mais bien sûr, ça va beaucoup plus loin hein, quand on regarde les statistiques, c'est international. Oui, c'est international, comme d'ailleurs le commentaire que j'ai reçu, un des commentaires que j'ai reçu sur Apple Podcast, et le commentaire, alors il est tout simple, il vient de Grande-Bretagne et c'est « Love it ». Voilà, merci Kay pour ce commentaire, ça fait toujours plaisir, au moins c'est court et c'est dit avec un petit commentaire 5 étoiles, je vous rappelle que les commentaires sur Apple Podcast, ça permet au podcast d'être découvert, hein, d'être qui remonte dans les classements. Alors les classements, ça fonctionne de manière qui est un petit peu obscure. Hein, c'est pas seulement le nombre d'écoutes, c'est aussi finalement hein, les commentaires, c'est aussi les recommandations que vous pouvez faire autour de vous. Ça aide le podcast à être découvert. Ça aide aussi, je dois le dire, hein, à avoir de nouveaux invités, à pouvoir aller voir de nouveaux invités en disant, bah regardez, on a de l'audience, ça peut vous intéresser potentiellement. Et ça permet aussi c'est comme ça d'aller taper à de nouvelles portes pour avoir des nouveaux invités qui sont intéressants, qui nous apportent une nouvelle vision hein, de ce qu'est la course à pied et de comment on peut progresser, nous les uns les autres, hein, sur notre niveau, comment on peut progresser dans la course à pied. Enfin, je ne saurais terminer cette petite introduction sans parler du Hamsters Running Club. Je vous rappelle que c'est la communauté autour du podcast, hein. C'est une communauté dans laquelle vous venez tout simplement discuter. Alors, elle n'est pas sur Facebook, ne la cherchez pas sur Facebook, elle n'existe pas sur Facebook. Sur Facebook, il n'y a qu'une page Hamsters Running Club dans laquelle il n'y a rien du tout, parce que la communauté, elle se trouve sur une application qui est en dehors, hein, tout simplement. Alors, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. Ça vous permet de rejoindre un petit groupe vraiment super sympa, dans lequel on discute de course à pied, on discute de nos objectifs, on s'entraide, hein, comment mieux s'entraîner, comment soigner des blessures, comment manger, comment quelles courses on prépare, comment préparer des courses. Je pose aussi des questions. Je vous demande aussi quelles sont les questions que vous voulez poser à mes invités. Enfin, il y a tout un tas de débats comme ça qui se font. On avait parlé par exemple des montres, on a parlé des vêtements, on a parlé des chaussures, on a parlé de comment on prépare telle ou telle course, de quoi déjeuner avant d'aller courir, quoi déjeuner après à courir, comment en récupérer, comment bien manger après, etc. Bref, vous voyez hein, tous ces éléments-là, et bien vous les retrouvez dans le Hamsters Running Club, communauté bienveillante hein, dans lequel, je le dis, hein, tout ce qui est dans le running, Hamsters Running Club, reste dans le Hamsters Running Club, hein, ça n'a pas vocation à sortir. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas du tout sur Facebook et sur un autre réseau social où tout est un petit peu ouvert. On est vraiment entre nous, à l'abri des tempêtes, à l'abri des commentaires négatifs aussi que vous trouvez sur de nombreux groupes de discussion autour de la course à pied où des fois les ambiances sont pas très sympas. Non, ici on est vraiment dans la bienveillance et vraiment dans comment on s'entraide pour tous mieux courir ensemble. Cette petite intro est en fait, il est temps maintenant de vous laisser avec ma discussion avec le docteur Denis Boucher. Vous allez voir, avec son franc-parler, il va vous amener, il nous amène à réfléchir finalement sur comment nous courons, comment nous entraînons, comment nous mangeons, comment nous vivons, l'équilibre global que nous avons dans notre vie et comment ça a un impact sur notre corps, sur nos performances et sur comment nous nous sentons. Allez, c'est parti pour cet épisode. Bonjour Denis.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir dans le podcast. On va faire les présentations, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te connaissent, hein, qui t'ont déjà entendu sur d'autres podcasts, notamment chez Nakan avec Camille Armano, qui a fait l'intermédiaire pour nous présenter, pour faire la jonction. Armano, avec qui j'ai couru un swimrun il n'y a pas très longtemps. Donc, je lui ai dit, Armano, écoute, il faut que tu me donnes les coordonnées du docteur Denis Boucher parce que j'ai envie de l'inviter dans le podcast. Comment tu te présentes en quelques mots ou en beaucoup de mots, parce que ceux qui connaissent savent que la présentation est toujours un petit peu particulière.
Oui, tu veux cette présentation particulière?
Oui, je veux cette présentation-là, sinon je n'aurais pas le vrai docteur, en fait.
OK. Alors, mon nom n'est nul autre que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le tout-puissant Denis Boucher. Et il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice.
Yes. Alors là, nous savons que nous avons le vrai docteur Denis Boucher. Non,
c'est ça important. Le seul et unique.
Il m'aurait dit, oui, t'as pris un faux, etc. et autres. Tu t'es débrouillé pour prendre un faux, etc. Et non, je vous le garantis, hein, j'ai bien le vrai docteur Denis Boucher. Avec derrière, en plus, il y a une belle pancarte derrière lui. Donc, tout va bien. On sait que nous avons le bon. Et puis, pour vérifier qu'on a le bon, je vais oser dire un truc. C'est que dans les présentations, j'ai mis une petite phrase là sur ma présentation à moi, qui devrait normalement faire hurler si c'est le vrai docteur Denis Boucher. Je suis un adepte de la course à jeun. Je vais courir à jeun plusieurs fois par semaine parce que j'adore ça.
Oh, quelle douleur! Ça me fait vraiment mal. Déjà, en commençant, ça me fait vraiment mal.
Oui, pourquoi?
Je vais amorcer avec toi aujourd'hui une transformation profonde.
Allez, on est parti alors.
Pourquoi Bertrand à jeun?
Parce que pour moi,
tu n'aimes pas ton corps, qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'aimes pas, tu éprouves certains problèmes émotionnels, qu'est-ce que tu veux guérir en courant à jeun?
Ah, alors moi, ça vient d'une vieille idée aussi au départ, c'était de dire, faut que je perde du gras.
Hein,
dans mon histoire, j'ai perdu 30 kilos quand même, hein, pas loin de 30 kilos. Et donc, ça faisait partie de ma croyance. Et c'est là où on va voir ces croyances. Parce que je sais que sur le site, quand on regarde sur le site, il y a beaucoup, beaucoup de croyances qui sont démontées, etc. Et notamment la croyance en disant, si je cours à jeun, je vais taper dans le gras. Mais c'est faux.
Non, Bertrand, déjà, scientifiquement, je t'explique quelque chose. L'utilisation des lipides est en relation avec l'intensité de l'effort. Et non avec le fait d'être à jeun ou avec la durée de l'entraînement. C'est physiologique. Ta croyance ne peut vaincre la physiologie.
D'accord. Et là, c'est le docteur qui me le dit. Donc, avec les années, etc., je suis obligé de le croire.
Oui. Et donc, à partir de maintenant que tu me crois, je comprends que tu ne courras plus jamais à jeun.
Il va falloir en dire plus quand même pour convaincre dans l'histoire, hein.
Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu n'es pas convaincu.
Parce que moi, j'ai une... En fait, ça fait des années que je cours à jeun et où j'ai le sentiment que je cours mieux quand je suis à jeun que quand j'ai mangé, que... Enfin, voilà, que j'ai l'impression d'être mieux quand je cours à jeun.
Définis-moi mieux.
Alors, on va dire plus léger, plus... Même, j'ai le sentiment que je suis... c'est difficile à dire, hein, mais j'en ai discuté avec une copine du club l'autre jour aussi, qui m'a dit qu'elle aussi est partie courir à jeun, parce que moi, je vais courir le matin, des fois au lever du soleil, je me dis, si je mange avant, je vais être un peu lourd, je vais être ballonné, je vais pas avancer, etc. J'ai le sentiment que je suis vraiment mieux le matin quand je vais courir tranquillement comme ça à jeun, sans avoir mangé ou quoi que ce soit avant.
Il y a un délai que tu dois respecter entre le repas que tu consommes et la course que tu vas réaliser. Il est certain que si tu te lèves, tu manges et tu vas courir, tu vas te sentir assez mal. Parce que ton corps ne contient que 5 litres de sang. Tu vas courir, il doit envoyer du sang à tes muscles et il doit envoyer du sang à ton estomac pour que tu puisses digérer. Donc, il y a une compétition qui s'installe. C'est pour ça que tu te sens mal. Si tu veux bien faire les choses, techniquement, tu devrais consommer quelque chose 90 minutes avant d'aller courir. Et là, tu aurais de l'énergie. Mais personne ne va arriver à me convaincre que courir avec un corps qui manque de réserve énergétique en tire des bénéfices. C'est impossible. Pour que ton corps s'adapte, il a besoin d'énergie. L'énergie provient des protéines, des lipides et des glucides. Mais si tu compares mieux avec, c'est certain qu'à jeun, tu n'as pas cette compétition au niveau de l'estomac. Donc, mais tu dois planifier. Si tu veux améliorer, tu dois maintenir un délai entre ta course et ton repas.
D'accord. Donc, ça veut dire
que... T'es convaincu maintenant?
Bah oui, mais ça répond pas à ma question de comment je fais si je veux aller voir le lever du soleil. Je suis obligé de me lever encore plus tôt que ce que je fais d'habitude.
Ce que je te suggère, prends un verre de jus de fruits pour entrer des calories. Les glucides que tu vas consommer vont diffuser rapidement dans ton organisme. Ça ne sera pas difficile à digérer. Et ce que je te conseille, c'est consomme d'autres calories pendant que tu cours.
D'accord. Donc, s'alimenter tout au fur et à mesure, finalement, de l'entraînement.
Voilà. C'est assez simple à faire.
Oui, je suis d'accord. Là-dessus, je suis assez d'accord. Bon, alors, on va voir si j'arrive
donc,
à adapter.
Je vais le voir dans tes données, là, sur tes prochaines courses. Je vais voir que le matin, tu as consommé certains aliments. Donc, sur Strava, si je regarde, je vais voir Bertrand Soulier a bien consommé des calories.
Ah, mais Strava ne le marque pas, mais... Bon, en ce moment, c'est facile parce que le jour se lève plus tard. Moi, je suis debout à 5h du matin, donc c'est encore en ce moment que c'est relativement facile. Mais c'est une vraie question quand même qui est importante parce que hier, j'ai couru un trail de 28 km. Et le grand débat avec ma femme toute la semaine, c'était de savoir ce que je mangeais avant. Alors, on y reviendra après, parce que je voudrais pas qu'on rentre directement là-dedans. Parce
non,
que
je te suis.
Il y a un élément qui était sur le site pour faire un peu plus les présentations. Là, j'avais dit, c'était juste pour chauffer, pour s'échauffer un petit peu. Hein, voilà. Moi, je carbure à l'eau, je vais boire ma petite tasse d'eau tranquillement. Quand on regarde le site, en fait, je vois docteur en médecine expérimentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai été formé en recherche médicale, donc je ne suis pas médecin, je ne fais pas de pratique médicale. Moi, j'ai été formé dans un laboratoire à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'Université Laval de Québec. C'est un hôpital, j'étais basé au laboratoire de physiologie de l'exercice et moi, j'ai étudié tout ce qui était le fonctionnement du métabolisme au repos, à l'effort, la notion de relation stress-physiologie. Donc, c'est mon travail. Mes études, recherche, simplifier recherche médicale.
D'accord. Et donc, appliqué au sport en général, alimentation,
oui.
Vraiment sur cette spécialité-là, en fait. Hein.
Oui. En fait, la spécialité est l'humain en mouvement. Parce que ce que je fais pour une personne qui veut perdre du poids et ce que je fais pour une personne qui veut améliorer ses performances, c'est la même chose, les mêmes mesures, mais dans deux contextes totalement différents.
D'accord. Il y a un autre truc qui frappe quand on arrive sur le site, c'est qu'on voit sur son... Alors c'est vraiment la première phrase hein, en plus, hein, ou l'une des premières phrases, c'est marqué « Se priver de nourriture plus s'épuiser à l'entraînement égale s'engraisser ». Alors là, je
oui.
sais que ça marque et c'est on va venir dessus parce que je pense en plus ça met bien les deux côtés du problème en fait. On a l'impression effectivement que il faut beaucoup faire de sport pour arriver à maigrir, que il faudrait pas trop manger non plus. Et pourtant, finalement, notre corps nous dit que ce serait l'inverse.
Voilà. Est-ce que tu veux que j'élabore dès maintenant?
Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Et tout le monde n'attend que ça.
À quoi la principale qualité du corps humain est de vouloir survivre. Pour survivre, il doit stocker de l'énergie. Il stocke l'énergie sous forme de gras, de graisse corporelle. Le corps humain tolère un déficit calorique maximal d'environ 400-500 calories. Donc, ce qui veut dire, plaçons des chiffres, soit un métabolisme de base de 1500 calories par jour. Tu n'en consommes que 1000. Tu as donc un déficit calorique de 500 calories au départ. Donc, ton métabolisme de base est l'énergie dont ton corps a besoin pour que toutes les cellules de ton corps accomplissent leur travail. C'est la peau, le foie, le cœur, les reins, l'ossature, la musculature, le cerveau. Si tu prives ton corps d'une partie importante d'énergie, il va se mettre à stocker du gras parce qu'il est en train de se dire « t'es suffisamment imbécile » pour me priver de nourriture à un tel point que si ça se poursuit très longtemps, je vais mourir, alors je vais stocker du gras. Je vais ralentir le métabolisme au maximum de mes capacités et je vais t'amener à stocker du gras. Même chose, tu dépenses 1500 calories au repos et tu vas faire un 28 km où tu vas dépenser un autre 2000 calories, ta dépense énergétique est rendue à 3500 calories et tu ne consommes que 2000 calories dans ta journée. Ton déficit calorique est de 1500 calories. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas stocker du gras et tu as passé 28 km à t'entraîner pour aucun résultat. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin d'énergie pour s'adapter. L'entraînement est la stimulation mécanique qui dit à ton corps « adapte-toi », mais tu ne lui fournis pas assez d'énergie pour qu'il s'adapte. Alors, tu t'entraînes pour rien.
D'accord. Bon, là, c'est assez clair, vu comme ça.
Oui, vu comme ça, hein, ouais. Ça rend les choses un peu plus concrètes.
Oui, d'accord.
Il faut que je te raconte, Bertrand, il faut que je te raconte. Je teste, je fais de nombreux tests chaque année. Et j'ai des gens comme toi qui parcourent de nombreux kilomètres à la course. Et oui, qui sont relativement endurants. Mais lorsque je teste le VO2 max, parce que pour la plupart des gens, s'entraîner est la seule chose qui permet de s'améliorer. Quand en réalité, l'entraînement n'est qu'une petite partie des progrès que tu peux obtenir. Il y a l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, ta qualité alimentaire. Et la plupart des gens ne font que courir ou s'entraîner et ne s'occupent pas de ces éléments très importants. Donc, j'ai des gens qui viennent, que je teste, qui s'entraînent 15 heures par semaine, parfois 20 heures par semaine. Et qu'est-ce que je me rends compte? Ils ont un VO2 max absolument pourri. VO2 max, une cinétique de consommation d'oxygène ridicule, c'est-à-dire une endurance acceptable. Et donc, pour l'investissement de temps qu'ils mettent à l'entraînement, n'obtiennent que des résultats minables. C'est triste. À vous.
Alors là, je suis d'accord, parce que là, on est vraiment en plus dans l'épuisement, se dire que ça sert finalement à pas grand-chose. Alors, et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là quand ils débarquent comme ça?
Cours moins, moins de volume, moins d'intensité, alimente-toi bien, assure-toi de mieux gérer le stress, de t'assurer la meilleure qualité de sommeil possible. Donc, ne dors pas avec ton portable à côté de sur ta table de chevet, pour te faire réveiller à chaque notification durant la nuit et améliore ta qualité alimentaire. Et réduis au minimum ton écart calorique, donc la différence entre ta dépense énergétique et ton apport calorique. Réduis cela au minimum.
D'accord, mais alors ma question de néophyte, alors elle va dire, mais si je dois maigrir, je fais comment si finalement il n'y a pas tant de réduction que ça en fait?
Bien, alors, ce que tu dois connaître, c'est la valeur de ton métabolisme de base, quel est ton apport en calories, protéines, lipides, glucides que tu consommes. C'est ma manière de fonctionner. Faire un test de VO2 max afin que je puisse connaître ta cinétique de consommation d'oxygène et donc ta dépense calorique en fonction de tes fréquences cardiaques. Tu dois calculer donc à chaque entraînement ta dépense énergétique, l'ajouter à ton métabolisme de base et à ce moment, répartir tout au long de la journée ton apport en calories, protéines, lipides et glucides. Le type de travail que la plupart des gens détestent et ne veulent pas faire, mais qui est le plus important, nettement plus important que courir. J'ai bien dit nettement plus important que courir, n'est-ce pas, Bertrand?
Je l'ai entendu, mais en fait, ça me semble être surtout des maths, cette histoire-là. Et comment, d'ailleurs? Alors, la question que tout néophyte va se poser, c'est, dont moi le premier, mais comment je connais mon métabolisme de base, finalement, cette fameuse consommation essentiel du corps.
Bertrand, c'est aujourd'hui d'une simplicité monstre. Personnellement, au cours de mes dernières années, j'ai possiblement fait aux alentours de 15 000 tests de métabolisme de base et à l'effort. J'ai appris à connaître le corps humain, j'ai développé des algorithmes de calcul. Alors, à l'heure actuelle, j'ai des clients en France, en Suisse, en Belgique. Que se passe-t-il? Tu remplis un questionnaire, tu m'expliques qui tu es, tu vas mesurer ton pourcentage de gras, je vais obtenir l'information sur ta masse grasse, ta masse maigre, ta physiologie. Tu vas faire un test de VO2 max, tu vas te trouver un tapis roulant, tu vas suivre mon protocole, tu vas rentrer les informations sur Strava, Garmin Connect, Polar Flow, peu importe, et tu vas m'envoyer les informations et je vais faire tous les calculs de ta dépense énergétique au repos jusqu'à l'effort maximal et te dire, voici Bertrand, ce dont ton corps a besoin en tout temps et voici comment le respecter. Donc, oui, ça prend des tests, mais si pour la plupart des gens qui tentent de le faire par eux-mêmes, ils n'y arrivent pas. C'est assez complexe malgré tout.
Oui, parce que je veux dire, on n'a pas un chiffre, une formule mathématique qui dirait en moyenne, notre métabolisme de base serait de temps ou...
Oui, mais les marges d'erreur sont importantes. Tu as des marges d'erreur de possiblement de 30%.
D'accord, donc, ah oui, ça fait une sacrée marge d'erreur quand même.
Ça fait une sacrée marge d'erreur, effectivement. Et il y a plusieurs variables qui vont influencer ton métabolisme et que moi et dont moi je tiens compte dans mes calculs. La qualité de ton sommeil, ton niveau de stress, le nombre d'heures que tu travailles chaque semaine, est-ce un travail sédentaire, est-ce un travail actif? Donc, il faut que j'aie une information globale, ton état de santé, ta consommation de médicaments. Donc, tout ça a une influence sur ton métabolisme et il faut pouvoir en tenir compte.
D'accord. Alors, en fait, effectivement, il y a énormément d'éléments qui vont rentrer donc, dans ce métabolisme. Ça veut dire que, par exemple, sur la période de l'année, on pourra avoir des besoins différents selon qu'on soit stressé au travail ou en vacances, on n'aura pas le même métabolisme en fonctionnement, etc.
Voilà. Et d'une journée à l'autre, ton métabolisme varie. En fait, ton métabolisme varie de seconde en seconde. C'est un système dynamique qui évolue en temps réel. Donc, je te donne un exemple. À l'heure actuelle, on discute, on est tous les deux très calmes, mais il arrive une urgence de ton côté. Qu'est-ce qui va se produire? Ta fréquence cardiaque va augmenter. Tu ne te mettras pas nécessairement à courir, mais ton corps va être en situation comme s'il courait à sa vitesse maximale. Parce que tu dois réagir vite en fonction de cette situation d'urgence. Alors, ça peut varier en un claquement de doigts. Et ce qu'on veut faire, c'est pour obtenir des résultats, stabiliser le métabolisme. Donc, si personnellement, je m'entraîne beaucoup, je mange peu et j'adapte pas mon apport calorique en fonction de ma dépense énergétique, que j'en arrive à un volume d'entraînement où je suis à 80 km de course par semaine et que je ne dors que 6 heures par nuit, ben, ma réponse est arrête de t'entraîner. Parce que tu ne dors pas suffisamment pour pouvoir t'adapter. Tu devrais dormir de 8 à 10 heures chaque nuit. Et c'est tout ça qui va... En ayant des mesures constantes, on voit comment le corps se comporte. Mais la plupart des gens, et c'est ça que je trouve triste, ils ne font que courir.
Oui, parce qu'on
la
a l'impression que...
La plupart des gens ne font que courir. Ils perdent un temps épouvantable à ne faire que courir sans s'interroger sur l'ensemble des variables qui influencent la performance.
Parce qu'on a l'impression quand même que c'est la réponse la plus rapide, j'ai l'impression. On dit, moi j'avais lu, alors dans ma jeunesse, enfin pas si lointaine que ça, mais il y a, on va dire 10 ans, j'avais lu quelqu'un qui disait « je cours pour manger du chocolat ». C'était quelqu'un qui écrivait, qui disait je cours comme ça et ça me permet de manger plus de chocolat parce que je dépense des calories, donc je peux manger du chocolat derrière. Moi, j'ai testé ce truc, ça marche pas. Mais ça, je le sais parce que je l'ai testé. Mais je pense que pour les gens, c'est un réflexe de se dire je dépense de la calorie. On me dit que pour maigrir, il faut que je dépense de la calorie. Le moyen le plus rapide, c'est faire du sport.
Ouais, mais voilà l'erreur. C'est qu'on comprend le corps humain en fonction d'un nombre de calories, quand en fait, c'est de la physiologie. C'est une interaction entre le système nerveux, le système hormonal et. Les calories, c'est une manière d'exprimer concrètement ce qui se passe, mais ça n'explique pas vraiment l'aspect physiologique. Donc, les gens font un calcul simple. Si je dépense 3500 calories, je perds un demi-kilo de gras. C'est pas vrai. C'est une relation entre le système nerveux et le système hormonal qui n'a presque rien à voir avec le nombre de calories.
Alors là, on vient de remettre en cause quand même tout ce qui est régime, tout ce qui est... Mais tout, quoi. Enfin, il faut plus
C'est pour ça que je suis tant détesté. Parce que je remets absolument tout en cause. Et quand quelqu'un vient me confronter, ma réponse est « As-tu déjà mesuré un métabolisme? As-tu déjà quantifié un métabolisme au repos, un métabolisme à l'effort? » Est-ce que tu sais ce que représente une cinétique de consommation d'oxygène? Est-ce que tu sais comment physiologiquement ton corps se comporte? Est-ce que tu sais où sont brûlés les lipides dans ton organisme? Alors, la plupart des gens vont répondre et la langue sort, frétille un peu. Comme un poisson mort, mais j'ai pas de réponse intelligente. Ce ne sont que des croyances. Tout ce que vous avez appris sur l'entraînement sont des croyances. Et les gens sont des systèmes de croyances. Ils veulent être bons et ils cherchent des approches miracles. Quand en réalité, c'est un investissement de temps, un investissement dans une stratégie intelligente. Mais je viens de dire stratégie intelligente, mais les gens ne veulent que courir. Ils ne veulent pas investir du temps dans une stratégie intelligente. Est-ce que je me trompe?
Moi, en tout cas, j'essaye de comprendre. Hein. C'est pour ça que ça m'intéressait justement qu'on ait cette discussion, parce que c'est vrai que si on est, si on regarde un petit peu au global. Alors moi, je prône depuis très longtemps dans ce podcast de dire que il y a trois piliers qui sont quand même importants. C'est vrai que l'alimentation, le sommeil, le mouvement font partie finalement des trois piliers sur lesquels on doit vraiment veiller. Moi, j'avais fait des contenus, beaucoup de contenus de ça. J'appelle ça mon système SAM. Moi, hein, voilà, c'est tout simple. Sommeil, alimentation, mouvement, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, on se retrouve quand même confronté, j'ai envie de dire, un peu à nos limites. On a l'impression que ça marche un certain temps et qu'au bout d'un moment, quand on... Il y a des caps à passer, des paliers. En tout cas, moi, c'est le palier tel que j'ai l'impression qu'il y est. C'est-à-dire de dire, j'ai équilibré mon alimentation, ça a marché, j'ai perdu mes 27 kilos, je suis devenu marathonien, etc. Mais à un moment donné, on a l'impression que peut-être que c'était qu'une toute petite partie, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire derrière.
Mais Bertrand, ce que tu me décris, c'est que tu travailles au pifomètre. Tu n'as aucune mesure concrète. Donc, quand tu rencontres un plateau, quelle est ta réponse? T'entraîner davantage? Quand ma réponse va être très différente, va être d'ajuster ton apport calorique, vérifier ton métabolisme de nouveau, vérifier ta cinétique de consommation d'oxygène. J'évalue généralement les gens que j'encadre à chaque 10-12 semaines. Parce que un entraînement va t'apporter des résultats pendant ça, à peu près 10-12 semaines, et tu dois te évaluer de nouveau où tu en es. Parce que ton but, c'est d'avoir un objectif. Et dès que tu as un objectif, tu perçois un écart entre où tu te situes actuellement et où tu veux te rendre. Le meilleur moyen de combler cet écart, c'est de quantifier. Mais personne ne quantifie. Tout le monde essaie. « Ah, je vais essayer telle chose, je vais essayer tel programme. » Foutaise, foutaise. Il n'y a pas un programme d'entraînement qui a de la valeur en soi. Le seul programme d'entraînement qui compte, c'est celui qui va produire chez toi, personnellement, la meilleure adaptation possible. Donc, reste, c'est du hasard.
D'accord. Donc, faut que je vire mon coach aussi qui nous fait faire à tous le même entraînement?
Oui. À moins que tu aimes beaucoup ton coach. Mais vois-tu, moi personnellement, c'est le genre de choses que je n'ai jamais voulu faire dans ma vie. Donner le même entraînement à tous. Parce que je sais très bien que la physiologie d'un individu est très différente d'un autre individu. À VO2 max égal, la physiologie de deux personnes sera très différente. Donc, je ne peux pas assumer que deux coureurs qui ont un VO2 max de 62 devraient avoir le même programme d'entraînement.
Alors, on va quand même préciser, parce qu'il y a quand même beaucoup de débutants en course qui écoutent hein, le podcast. La VO2 max, comment on la définit très précisément et comment on la mesure, comment on connaît ce chiffre en fait?
Oui. Le VO2 max, en termes scientifiques, est le volume d'oxygène consommé à l'effort maximal. Donc, plus le chiffre est élevé, plus vous êtes en forme. Mais en réalité, c'est une partie de la vérité. Parce que le chiffre, plus il est élevé, il vous indique que vous allez vous fatiguer beaucoup plus tard que quelqu'un d'autre. Donc, si j'ai un VO2 max de 54 et que je cours avec quelqu'un qui a un VO2 max de 65, tu comprendras très bien que la personne qui a un VO2 max de 65 à côté de moi va continuer à courir alors que moi, je vais être totalement épuisé. Mais la vraie histoire, c'est lorsqu'on mesure le VO2 max, on le fait au moyen d'un test progressif. Moi, je le fais sur tapis roulant. Donc, On commence par la marche, on augmente l'intensité progressivement, chaque palier, chaque minute. Et je mets en relation la fréquence cardiaque avec la charge de travail que je contrôle avec le tapis roulant. Donc, j'ai une vitesse, j'ai une pente. Et quand je mets ces deux choses en relation, j'obtiens une courbe qu'on appelle une cinétique de consommation d'oxygène. Cette courbe va présenter des inflexions. La première inflexion est ce qu'on appelle le seuil d'échange gazeux. La transition entre l'utilisation des lipides et l'utilisation des glucides. Si vous utilisez des lipides, vous êtes en endurance fondamentale. D'accord? Donc, techniquement, vous pouvez courir indéfiniment sans que la fatigue s'installe. Parce que vous avez une réserve énergétique en lipides 30 fois supérieure à celle des glucides. J'ai bien dit techniquement, parce que la fatigue va s'installer inévitablement un jour ou l'autre. Lorsque il faut comprendre que cette transition qu'on appelle entre l'utilisation des lipides et des glucides, qu'on appelle le seuil d'échange gazeux, est différente d'une personne à l'autre. Deux personnes avec le même VO2 max peuvent avoir des seuils d'échange gazeux très différents. J'en ai un qui peut apparaître à 140 battements minute et l'autre peut apparaître à 165. Donc, ça implique des performances différentes au niveau de l'endurance. La deuxième inflexion dans la courbe est celle qui m'indique le moment où le corps commence à accumuler de l'acide lactique. Lorsque tu utilises des glucides pour produire ton énergie, le sous-produit est l'acide lactique. Et tu réutilises pendant un certain temps l'acide lactique jusqu'à arriver à un nouveau seuil où tu te mets à accumuler de l'acide lactique. Et lorsque tu commences à accumuler de l'acide lactique, c'est le seuil qu'on va appeler le seuil d'épuisement. Je sais très bien qu'à partir de ce moment, tu as des réserves énergétiques pour environ 40 minutes. Et plus tu augmentes vers ton VO2 max, moins il te reste de temps de fonctionnement. Plus tu épuises rapidement tes réserves énergétiques. Et c'est donc comme ça qu'on analyse comment fonctionne quelqu'un. Et ce que les gens ont de la difficulté à réaliser, je te donne un exemple. Je fais un premier test avec toi, Bertrand, et je te dis, Bertrand, tu as un VO2 max de 55 et ton seuil d'échange gazeux se situe à 130 battements par minute. On établit un programme d'entraînement. 10 semaines plus tard, je fais un nouveau test et tu as le même VO2 max. Toi, tu vas conclure que parce que tu as le même VO2 max, que tu ne t'es pas amélioré. Mais en réalité, c'est que tes seuils se sont déplacés. Ton seuil d'échange gazeux est peut-être passé de 130 battements minute à 142 battements minute. Donc, tu vas commencer à entrer dans tes réserves de glucides seulement à 142 battements par minute, quand avant, c'était à 130 battements par minute. Donc, tu as la même courbe de progression au niveau du travail réalisé, mais ta réponse physiologique s'est améliorée. Donc, le VO2 max n'est pas la réponse à tout. Il faut vraiment avoir une cinétique de consommation d'oxygène. C'est pour ça que, personnellement, les tests de puissance aérobie maximale m'intéressent peu. Vitesse aérobie maximale, cycliste puissance aérobie, mais vitesse aérobie maximale, ça m'intéresse peu parce que je n'ai qu'un chiffre. Ça ne m'explique pas comment se comporte la physiologie de la personne, de mon client à l'effort.
D'accord, donc là c'est très très clair, ce qui nous amène d'ailleurs sur des questions d'endurance mentale, hein, ces histoires de à quelle vitesse je dois courir, etc. Ce qui veut dire que on peut pas fixer un chiffre global en fait, il n'y a pas de formule mathématique qui serait de dire c'est à peu près à tant de pourcentage par rapport à votre âge ou quoi que ce soit.
Non, oui, généralement ça va se produire à 70, ça va arriver à 70% de ta fréquence cardiaque maximale, mais moi, je déteste les formules générales. Je n'assume jamais qu'un de mes clients représente la formule générale. En fait, j'ai rarement des clients qui représentent la formule générale. Je préfère, si je veux obtenir des résultats, mesurer une personne, comprendre cette personne. Parce que tout le monde travaille avec des formules générales et on assume que tout le monde répond dans la même zone, ce qui est totalement faux.
J'avais une question, parce que j'ai oublié de la poser juste avant, mais on a des tests de... Enfin, c'est marqué notre VO2 max là, potentiel qui est estimé par les montres cardio qu'on porte quand on s'entraîne. On leur fait confiance ou on leur fait pas confiance à ces chiffres qui sont donnés?
Marge d'erreur de 30%.
Waouh, c'est gros quand même. Hein?
Oui. Oui. Mais pour un débutant, ça peut être très bien. Pour un débutant, ça peut être très bien, qui veut vraiment s'y mettre et dire ouais, je commence la course, je ne veux pas m'épuiser, je vais me fier à ses paramètres de base. Ça peut bien fonctionner. Mais quand tu arrives à un certain niveau où tu veux t'améliorer, il faut que tu cherches des informations beaucoup plus précises et que tu intègres à ton entraînement tous les aspects qu'on a mentionnés. Alimentation, qualité alimentaire, sommeil, gestion du stress. Dans un de mes livres que j'ai publié sur la performance sportive, je parle de tenir un journal d'entraînement. Chaque jour, tu es allé courir, quelle était la température, le taux d'humidité, l'altitude, la durée de ton sommeil. Parce que si ça commence à aller mal, il faut que tu puisses savoir pourquoi ça va mal. Et si ça va bien, il faut que tu puisses savoir pourquoi ça va bien. Je déteste le hasard. Je déteste vraiment le hasard. Je veux en tout temps des données. Donc, quand j'ai un athlète qui a son... Je te donne un exemple. Je fais un deuxième test de VO2 max 10 semaines plus tard et le VO2 max a diminué. J'ai une perte de masse musculaire. Donc, je sais très bien que la personne est en phase de surentraînement. Qu'est-ce que je vais aller observer? Je reviens dans son journal d'entraînement. Hey, dans les deux derniers mois, ta durée de sommeil a été réduite de 2 heures. Pourquoi? Ah, Denis, j'ai décidé de me coucher beaucoup plus tard le soir. Je sais pas, c'est venu comme ça. Bon, regarde, ça me dérange pas. Veux-tu des résultats? Oui, tu veux des résultats? Dors. Couche-toi plus tôt. Parce que ton corps, lui, c'est pas parce que toi, tu penses que ton corps va réagir comme tu penses. C'est très différent.
Je crois que c'est assez clair hein, dans cette logique-là.
Tu comprends, Bertrand, qui veut faire tout ça?
Oui, mais en fait, ça veut dire qu'on peut... ceux qui disent on court aux sensations, pas de montre, pas de choses comme ça, même à très haut niveau, hein, j'en ai reçu sur le podcast hein, des gens qui... D'ailleurs, quelqu'un qui disait qu'il courait le moins possible avec une montre, et son coach disait, bah, moi, je voudrais bien qu'il courait avec une montre quand même, qu'on ait plus de données dessus. C'est-à-dire que cette notion de courir aux sensations, de progresser aux sensations, il y a quand même une limite, on va dire, ou...
Il n'y a pas de limite. Moi, si je cours, je cours aux sensations. Parce que je me connais très bien ma physiologie. Je sais très bien que j'entre dans ma zone dans ma zone d'utilisation des glucides. Je vais ralentir pour rester dans ma zone d'utilisation des lipides. C'est aussi simple que ça. Mes dernières longues courses que j'ai faites il y a plusieurs années où je partais pour une sortie de 4 ou 5 heures, c'était aux sensations. C'était simplement comme ça.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut courir aux sensations, avoir quand même cette mesure, cette quantification quand même, à un moment donné.
Oui.
On peut mixer les deux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être rivé comme un ordinateur, etc., d'avoir une programmation de tous ces éléments-là, quoi.
Absolument, parce que je sais pas si l'expression va être bonne, mais le feeling se développe entre tes données physiologiques et ce que tu ressens. Tout le monde est capable de me dire approximativement, je suis à l'heure actuelle à 140 battements minutes, je suis à l'heure actuelle à 160 battements minutes. Tous les coureurs expérimentés que je teste vont me le dire. Hey Denis, je devrais être à peu près à 160. Oui, tout à fait. Donc, quand tu connais ta cinétique de consommation d'oxygène et ta réaction, tu es capable de tout ajuster. Tu peux avoir une bonne interrelation entre les deux et mixer les deux.
D'accord. Alors d'ailleurs, ça me répond à une question que j'avais qui a été posée sur la question de l'adaptation à l'endurance fondamentale. Parce que moi, j'ai lu le livre « Courir lentement afin de courir plus vite hein, ». On en parlait tout à l'heure juste avant de démarrer l'enregistrement. Où on aborde justement cette thématique, hein, où tu abordes cette thématique de dire bah, « ça sert à rien des fois de... » Et puis il y a un programme aussi sur le site où qui dit bah, « ça sert à rien, il y a des fractionnés à toute vitesse qui servent peut-être à rien hein, ». On a commencé un petit peu à en parler.
Oui.
On arrive donc à toucher cette notion d'endurance fondamentale qui est assez énigmatique hein, quand même, même si on commence à comprendre un petit peu où elle se situe, pourquoi on doit travailler dedans aussi, etc. Comment on arrive à s'y mettre Alors, surtout les débutants, c'était une discussion que j'avais eue avec dans un épisode précédent avec Johan Stuck, qui disait les gens courent toujours trop vite. Surtout les débutants, oui. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils courent toujours, toujours trop vite.
Oui. Tout à fait. Tout à fait. Lorsque tu débutes un programme de course, tu ne devrais jamais te fatiguer. Parce que tous les gens, la course à pied, c'est courir contre la montre. Je vais courir 5 km, je veux le courir le plus rapidement possible. C'est l'idée de base pour tout le monde. Je veux courir 10 km le plus rapidement possible. Je veux courir 42 km le plus rapidement possible. OK. Mais lorsque tu débutes, ta condition physique est très réduite. Ton adaptation mécanique à la course n'est pas encore faite. Ta mécanique de course est possiblement défaillante. Et toi, en bon imbécile que tu es, tu veux courir vite. Quand en réalité, tu devrais courir très lentement, un peu de fatigue s'installe, marcher, courir, marcher, courir, marcher. Ne jamais dépasser une fréquence cardiaque où tu commences à te sentir essoufflé. Et surtout, ne jamais tenter de maintenir une fréquence cardiaque à laquelle ton essoufflement est trop élevé. Mais qui veut commencer à la base? À peu près personne. Et la majeure partie de mes clients qui viennent pour de la perte de poids, que se passe-t-il? Ils ont l'impression de régresser. Parce que, pour certains qui couraient, je leur dis, t'es pas assez en forme pour courir. T'es un gros dodu standard. Il faut ralentir. On va te faire marcher. Tu vas perdre du poids parce que tu n'imposeras pas à ton corps un stress physiologique. Et ensuite, on va progresser. Mais bien sûr, les gens sont drogués à la performance, à l'idée qu'il faut un haut volume d'entraînement, une haute intensité. Et là, il faut que je les retienne. Non, tu cours pas tant que je ne te l'ai pas autorisé. Arrive le moment où je les autorise. Mais Denis, j'ai pas dû améliorer ma condition physique. Je n'ai fait que marcher. Erreur. Parce que, et tu t'en souviens peut-être dans le livre, j'ai des gens qui courent 15 heures par semaine, qui ne sont pas plus en forme que des gens qui marchent 5 heures par semaine. J'ai fait un comparatif. Je vais t'en donner un autre comparatif. Je m'entraîne en salle, en gym, depuis 2 ans. Très peu couru, à peine. J'ai testé mon VO2 max. Un petit vieux de 56 ans comme moi, VO2 max de 54. C'est correct. Acceptable. Je teste un triathlète de 38 ans qui s'entraîne et s'entraîne et s'entraîne, VO2 max, 52. Qui est l'imbécile entre nous deux? Le volume d'entraînement ne t'apportera pas nécessairement, le volume et l'intensité n'apportent pas nécessairement les résultats que tu souhaites. Et il faut le comprendre. Et pourquoi moi, je l'ai compris? Parce que je le quantifie. Mais pour quelqu'un qui n'est pas capable de quantifier, je sais que ça reste de l'abstrait. Ça reste quelque chose d'étrange, d'incompréhensible. Et c'est dur de s'imaginer que tu as passé 15 heures à t'entraîner par semaine pendant les 20 dernières semaines et que tu n'es pas plus en forme que quelqu'un qui marche.
Oui, c'est même très frustrant, j'ai envie de dire, parce que finalement, quelqu'un comme ça qui débarque, on lui dit, ben finalement, t'avais qu'à marcher, t'aurais été en meilleure forme, il fait la gueule quand même. Hein.
Oui, ça fait mal, ça fait mal.
Mm-hmm. Et c'est là où je me rappelle, d'ailleurs, dans le livre, il y a des choses qui me reviennent là-dessus. La première truc à faire, donc, ça serait quoi? Ça serait de marcher, de reprendre l'habitude finalement de bouger.
Oui, mais si tu débutes, moi, je vais te recommander de marcher. Parce que tu vas nettement améliorer ta condition physique en marchant. Et marcher va te permettre de perdre du poids si tu gères ton alimentation, bien entendu. Et ce que tu dois comprendre, c'est que perdre du poids est la meilleure manière d'améliorer ta condition physique. Pour chaque 4 à 5 kilos que tu perds en gras, tu améliores ta condition physique de 4 à 5 %. Il n'y a pas beaucoup de programmes d'entraînement qui vont te donner ça aussi rapidement.
Effectivement. Alors, ça, c'est un point qui est important. Donc, Pendant combien de temps ça il faut finalement cette première période d'adaptation, j'ai envie de dire, parce que alors même si on va dire ça dépend des uns des autres etc, mais est-ce qu'on peut dire que faudrait marcher pendant un mois, 2 mois, 3 mois pour commencer
trois
à
mois sentir...
3 mois?
3 mois, oui. Moi, ma première période d'adaptation pour mes clients est de 3 mois. Donc, ils suivent, ils marchent, perdent du poids, pas de stress physiologique, j'apprends à mieux gérer le stress, mieux gérer ta relation avec la nourriture, améliorer la qualité de ton sommeil. Et voilà. Parce qu'imagine, il faut que je te dise autre chose, Bertrand. Nous n'avons que 100% d'énergie. Cette énergie doit être répartie à travers toutes nos activités quotidiennes. Et nos activités quotidiennes, ça inclut penser. Parce qu'à l'heure actuelle, notre cerveau, qui n'est que 2% du poids de notre corps, utilise 20 à 30% d'énergie. Donc, 20 à 30% du métabolisme de base. Penser requiert de l'énergie. Donc, si tu as un travail qui te stresse mentalement, que tu arrives à la maison, tu as 4 enfants dont tu dois t'occuper, et que tu as des loisirs à en plus finir, et que tu dors peu, et que tout d'un coup, une bulle te pète au cerveau, tu te dis « je vais me remettre à l'entraînement parce que je veux perdre du poids », et que tu y vas avec un programme de 5 heures de course à pied par semaine à te priver de nourriture, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de suicider ton corps. Tu t'imposes un stress physiologique parce que tu dépasses la capacité d'adaptation de ton corps. Oui, ça va bien aller les premières semaines parce que ton corps va être capable de compenser. Mais il va arriver un moment, 20 semaines plus tard dans la plupart des cas, où ton corps va décompenser. La fatigue va s'installer, ton humeur va changer, va devenir négative, tu vas être épuisé. Les difficultés à dormir vont s'amplifier et tout va se mettre à mal aller. Les gens ne comprennent pas qu'on doit respecter son corps et s'entraîner en fonction de nos capacités. J'ai des gens à qui je dis, ton maximum, ta capacité maximale est de 50 km par semaine. Oui, mais Denis, j'aimerais courir davantage. Non. Lorsqu'on passe 50 km par semaine, ta condition physique se dégrade et tu perds de la masse musculaire. Donc, tout m'indique que ça va mal. Donc, 50 km. Oui, mais Denis, j'aimerais en faire davantage. Je suis désolé, ton corps n'est pas capable d'en faire davantage. Peux-tu comprendre ça? Il y a une certaine réalité à laquelle il faut faire face. On n'est pas invincible, on a des limites.
Alors par contre, dans l'exemple qui est donné, on dit, bon, on a des enfants, un boulot, on veut des loisirs, etc. Et il faut dormir, et on veut faire du sport. Ça veut dire qu'il y a des choix de vie, alors je vais pas dire drastiques quand même, mais qui vont faire peur à certains. Moi, il y a des gens qui sont très surpris quand je leur dis que je me couche tôt. Mais en fait, ils ne devraient pas être surpris. Ils devraient comprendre que finalement, je suis déjà un petit peu la discussion, la logique de ce qu'on est en train de dire, que finalement, je l'ai compris, grosso modo.
Oui, tout à fait. Voilà. Si tu veux des résultats, tu dois donner à ton corps ce dont il a besoin pour s'adapter. L'entraînement n'est qu'une petite partie de l'adaptation. L'entraînement n'est que la stimulation mécanique qui dit à ton corps, tu subis un stress physiologique, pour y répondre, tu dois t'améliorer. Mais si tu ne lui donnes pas l'énergie nécessaire qui vient d'une durée, d'une qualité de sommeil suffisante, d'une alimentation, d'une qualité alimentaire suffisante et d'un niveau de gestion du stress et des demandes environnementales adéquates, tu ne t'adaptes pas, tu régresses. Et face à une régression, que font la plupart des imbéciles? Ils vont s'entraîner davantage. Bravo! Hein? Quelle réponse intelligente! Il faut réfléchir. Je sais que je suis détesté quand je dis tout ça, parce que la plupart des gens se comportent en imbéciles. Et je ris. Et sincèrement, je me tords de rire. Chaque fois maintenant que je vois quelqu'un partir courir avec son sac à dos et tout son petit kit à l'intérieur, et je sais très bien qu'il va aller courir des dizaines et des dizaines de kilomètres sans s'intéresser à autre chose qu'à courir.
Alors, qu'est-ce qu'il devrait faire à la place, tiens? Qu'est-ce qu'il devrait faire plutôt que de partir comme ça
Ben, il doit planifier. Il doit se fixer un objectif, savoir si cet objectif est réaliste en fonction de ses capacités. Donc, il doit connaître ses capacités, connaître son métabolisme de base, connaître sa cinétique de consommation d'oxygène, son VO2 max. En fonction de l'écart qu'il a à combler, quel programme d'entraînement lui permet de combler cet écart. Et ça doit se faire sur une courte période. Parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, c'est la notion de performance. Il y a quand même, je te compte ça, c'est un exemple qui est peut-être caricatural, mais le monde pense comme ça. Ils n'ont jamais couru, ils commencent à courir, ils ne veulent pas courir un kilomètre, ils veulent aller courir un ultramarathon. Parce qu'ils ont vu le champion à quelque part courir un ultramarathon. « Ouais, je vais aller courir un ultramarathon! » Ouais, mais t'as jamais couru un kilomètre de ta vie. J'ai quelqu'un qui a lu mon livre à Québec. Il m'appelle, il me dit « Denis, j'aimerais courir comme un Kenyan. » Ouais, OK, bel objectif. Vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Ouh! Et vous voulez courir comme un Kenyan? Vous courez combien de kilomètres par semaine? Ah non, je vais commencer là. Mais voyons. Réflexion imbécile. Les gens veulent être super performants quand en réalité, arrivé à un certain âge, t'es qu'un athlète amateur moyen. Et tu seras toujours un athlète amateur moyen. Même si tu t'achètes, parce que tu es un triathlète, un vélo à 12 000 euros avec un beau petit kit et que tu as tout le petit équipement flasheux et extraordinaire, tu n'es qu'un athlète moyen. C'est dur ce que je dis, mais il faut l'accepter. Et se dépasser, c'est jeter à la poubelle ses croyances, s'évaluer, se regarder dans le miroir, et savoir ce que tu peux combler comme écart, ce que tu peux améliorer et faire des progrès constants. J'ai un cycliste que je suis depuis maintenant 8 ans. Il a commencé, c'était un désastre. Aujourd'hui, il laisse tous ses amis derrière lui. Ce n'est pas un athlète d'élite, c'est un gars dans la cinquantaine. Mais il a tellement travaillé, tellement peaufiné l'entraînement, tellement fait tout ce que je viens de te raconter, qu'il a surpassé tout le monde. Et quand les gens lui demandent « Mais qu'est-ce que tu fais pour y arriver? » et qu'il explique tout ça, personne ne veut le faire. Tout le monde veut des résultats sans faire ce qui doit être fait. Je parle beaucoup, Bertrand, je te laisse la parole.
Non, mais c'est très intéressant parce que justement, c'est là aussi où on se rend compte de l'effort, de la nécessité d'accumulation aussi dans le temps, hein, ça se fait pas en un jour, ça se fait en semaine, en mois, en année, hein, ces progrès-là. Et c'est vrai que on voit des courses, on voit les gens qui courent vite, on voit puis ça a l'air d'être facile pour les gens qui courent vite en plus, mais on oublie aussi que des fois, dans tous les cas, ils ont leur passé, quoi. J'ai envie de dire, ils ont leurs conditions physiques, ils ont un rythme de vie qui est particulier, etc. Et nous, on est dans les mêmes courses, mais en fait, moi je dis toujours qu'on n'est pas dans la même course. En fait, moi je me bats. Même moi, je me dis, si j'arrive moins fatigué ou un peu plus rapide que la fois d'avant, je suis content de mon coup. Grosso modo, hein, c'est comme ça que je le vois. Ce que je disais hier après mon trail de 28 km, je me disais, de toute façon, il y a 4 ans, je l'aurais jamais couru. J'aurais même pas eu l'idée que j'allais le courir un jour, ce trail de 28 km. Et hier, j'arrive, je le cours en me disant, bon, j'arrive avec le sourire. Bon, pour moi, c'est ma mesure de performance, on va dire, même si j'arrive une heure après le premier, quoi.
Bertrand, il faut que je t'interrompe parce que la question que je pose le plus souvent à mes clients, la courir te rend-il heureux?
Ah, mais moi,
si
oui.
Si tu ne fais que lutter contre l'épuisement, que tu as des courbatures musculaires, blessure après blessure, cesse de courir. Tu ne le fais pas de la bonne manière. Si courir ne te rend pas heureux, tu t'es trompé.
Mais je peux quand même avoir des courbatures. Ça a un grand débat, la courbature. Hein?
Occasionnellement.
Oui.
Si tu as des courbatures après chaque entraînement, tu fais la mauvaise chose.
Ça veut dire qu'en fait, on tire trop sur le corps, en fait, c'est ça?
Oui. Oui. Je me souviens de deux athlètes d'ultra-endurance qui sont allés faire un ultra-marathon. Ils pouvaient courir 70 km dans une journée, puis travailler, il n'y avait pas de fatigue. Parce qu'on respectait des zones très spécifiques. Ce n'est pas normal d'avoir constamment des courbatures musculaires. Mais tout le monde est fier de ses courbatures musculaires. Ouais, ça a été payant. Ouais, regarde comment je suis courbaturé. Ah, j'ai de la difficulté à me lever. J'ai les mollets crampés. Waouh, que je suis fier de moi. Non, t'es un crétin. T'es un foutu crétin. Tu ne fais qu'épuiser ton corps et t'es fier de ça. Non, mais tu réalises que ça fait pas de sens, Bertrand?
Oui, non, mais après, là, on est en train de remettre en question le no pain, no gain et tous les...
C'est de la merde. C'est de la merde. Quelle foutue merde. Les slogans publicitaires de merde inventés par des gens du marketing pour te faire acheter des belles chaussures ou autres. C'est vraiment ridicule. Et les gens y croient. Les gens y croient. No pain, no gain. Come on. Aucun sens. Physiologiquement, ça ne fait aucun sens. Oui, c'est très spectaculaire. Tu comprends que moi, je ne pourrais pas vendre de chaussures de sport. Parce qu'avec mes slogans, faire attention à toi, épuise-toi pas, il n'y a pas grand monde qui en achèterait.
Non, c'est sûr.
Mais
que...
si je te fais croire que tu es bedonnant et que tu vas courir 42 km en 3 heures dans 3 mois, t'es un être heureux. C'est irréaliste, mais t'es heureux. Parce que tu y crois. Tu crois à toutes ces conneries. Ce n'est que de l'épuisement. C'est de la merde pour amener les gens à s'épuiser. Je te le répète, Bertrand, nous ne sommes qu'un système de croyances. Nous, au Québec, avant l'arrivée des années 60, la religion catholique contrôlait les comportements des individus au Québec. Nos grands-mères étaient des truies reproductrices qui devaient pondre de 10 à 15 ou à 20 bébés dans la durée de leur vie. Tu comprends? C'était contrôlé par la religion. Est arrivé dans les années 60 la Révolution tranquille où on a dit « fuck you la religion ». OK? Mais ce que je constate, c'est que les gens veulent croire, ont besoin de croire. Ils ont besoin d'une religion. Dans le sport, la religion, c'est la performance.
Et l'épuisement.
Et l'épuisement. Et ils ne se rendent pas compte que c'est une religion. Une religion qui n'est pas saine, qui n'est pas équilibrée. Et je reviens à la question. Si, lorsque les gens au Québec, les femmes se sont rendues compte qu'avoir 15 enfants dans une vie détruisait leur corps et les épuisait, qu'ils ont dit « fuck you la religion », et que deux étaient suffisants, alors ils ont changé leur vie. Ils ont dit, moi, pour être heureuse, deux enfants, au max, c'est ce que j'ai besoin. Maintenant, c'est la même chose. Si la course ne te rend pas heureux et que tu es toujours mentalement en train de considérer que tu n'es pas performant et que tu n'atteins jamais tes objectifs, abandonne la course. Abandonne le sport. Parce que tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Nous sommes des humains. Notre base est une base biologique. On doit soigner notre biologie. Et biologiquement, qu'avons-nous le plus besoin dans notre vie? D'être heureux. Si la course ne te rend pas heureux, arrête. Reste chez vous, fais autre chose. Et va te soigner. Abandonne ta religion de la performance et de l'épuisement. Je suis peut-être trop dur, mais ai-je raison, Bertrand?
Oui, alors je vais renverser la question. Et si je suis heureux, est-ce que je cours plus vite?
Non. Parce que tu vas devenir un imbécile qui ne sait pas s'évaluer, qui ne respecte pas son corps, ses limites et qui ne l'a pas étudié. La performance est une question de stratégie. OK. Puis-je te parler d'autres genres d'imbéciles, Bertrand?
Allons-y, allons-y, c'est parti.
OK. Une bulle m'a monté au cerveau, encore une fois, et j'ai décidé que je voulais courir un marathon. Et j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail. Et je me mets à courir. Et je cours. Et je cours de nombreuses heures par semaine. Et je laisse ma femme seule avec les enfants à la maison. Elle fait tout parce que je vais courir et je dois aller travailler. Donc, la course est devenue la priorité par rapport à ma famille, la priorité numéro un par rapport à ma famille. Et je n'ai pas réalisé dans ma tête qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Et que le fait que moi, je veuille courir, et que je cours, et que je cours, et que je cours, et que je ne suis plus à la maison parce que je cours, et je cours, et je cours, et que je ne fais que courir, que ma conjointe est écœurée. Elle n'en peut plus. Et là, parce que je cours, j'en arrive à un divorce. Je viens de détruire ma vie parce que je voulais courir. La course, dans cette... C'est un exemple concret que je te donne, Bertrand.
Oui, et en plus, je connais des gens.
Un de mes clients, ouais, que je me souviens très, très bien. Je lui disais, t'en fais trop. Oui, mais je veux courir, Denis. T'as pas d'équilibre de vie. Alors, paf. Et en plus, c'est un bon ami à moi. Je me permettais de lui dire toutes les conneries qu'il faisait, mais il voulait pas le voir. Il voulait courir un marathon. Mais si courir détruit ta vie, qu'est-ce qu'il y a de sain là-dedans? Absolument rien.
Mais je suis d'accord. Et c'est un exemple que je connais parce que j'ai vu ce cas de quelqu'un qui s'était lancé dans l'Ironman et qui, au bout de quelques années, a fini par divorcer. Alors, en plus, c'est parti dans tous les sens. Mais qui, effectivement, au bout d'un moment, n'était plus jamais là. Et ça, il a été un peu comme drogué. Parce qu'on peut dire quand même qu'il y a une espèce de drogue, une accoutumance hein, quand on fait du sport, on parle des endorphines, oui, etc. Hein.
Oui, 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 oui. Il y a les endorphines, effectivement. Mais il y a principalement, je te dirais, la stupidité humaine. Cette croyance de « moi, je me réalise et je vais atteindre un niveau de performance extrême ». Parce que c'est très spectaculaire de voir quelqu'un qui t'enchaîne 300 km de course en 48 heures. Très spectaculaire, mais il ne fait que courir. Moi, personnellement, ne faire que courir dans ma vie, je vais vomir. Bleh. Aucun intérêt. Ça ne représente pas l'équilibre de vie. La vraie question, est-ce ce que tu fais te rend-il heureux? Et si tu me dis oui, ça me rend heureux, mais que ça détruit ta vie, tu n'as rien compris.
Bon, bah, je pense que c'est en tout cas, ça mérite une vraie discussion parmi certains, parce que c'est vrai que ça fait partie, et on le voit un petit peu, moi, quand on regarde un petit peu, quand on discute dans les pelotons, quand on regarde un petit peu ce que font les gens, moi, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire pour certaines courses, mais on pourrait aussi dire sur le plan alimentaire, parce que je voudrais revenir sur le plan alimentaire quand même. L'alimentation, c'est quand même, enfin, ou la nutrition, on va dire, saine, santé, sportive, etc., c'est quelque chose qui paraît compliqué. Et qui, surtout quand on est en famille, quand on a des enfants, quand on est marié, on se dit c'est quand même pas si simple que ça des fois de changer d'alimentation, d'arriver à équilibrer hein, ces fameux équilibres, ce métabolisme, etc. Ça paraît compliqué pour les gens vu l'extérieur.
Pour mes clients, c'est un mois d'apprentissage. Je les amène à utiliser un journal alimentaire en ligne. Je leur explique le rapport en calorique de base, donc en calories, protéines, lipides et glucides. Je leur demande d'éviter le plus possible les aliments raffinés. Et je leur dis, vous pouvez manger tout ce que vous voulez parce que je veux que vous atteigniez l'apport en calories, protéines, lipides et glucides que je vous ai recommandé. Et je leur explique leurs dépenses énergétiques parce que en fonction de leur fréquence cardiaque, parce qu'on a fait un test de VO2 max. Et je leur explique comment combler cet écart calorique. Et la réponse est assez simple. Si tu dépenses 3000 calories dans une journée, le minimum que tu consommes, c'est 2600. Si tu dépenses 6000 calories dans une journée, tu en consommes 6000. Si tu dépenses 12000 calories dans une journée, tu en consommes 12000. Michael Phelps.
Oui, avec les hamburgers qui mangeaient McDo, je ne sais pas combien de hamburgers dans la journée. Hein.
Oui. Peu importe, il brûle tout. Donc, vois-tu, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut juste se dire, OK, je vais prendre le temps de remplir un journal alimentaire. Et je sais, j'entends tout le monde. Ah oui, Denis, moi, je n'ai pas le temps de remplir un journal alimentaire, de m'occuper de tout ça. D'accord, aucun problème. Mais arrête de croire que tu es un athlète performant. Tu es quelqu'un qui court. C'est pas parce que tu as un beau petit kit de sport flasheux avec des couleurs fluo que tu es bon. Tu es un athlète médiocre. Mais accepte-le.
Dans le journal alimentaire, on y place quoi? Ce qu'on mange, il faudrait mesurer ses calories, il faudrait avoir une estimation des protéines, des glucides, comment on fait? Il faudrait avoir vraiment le détail des grandes familles d'aliments?
Oui, calories et macronutriments. Donc, tes calories, protéines, lipides, glucides. Tes principaux apports énergétiques.
D'accord. Alors, c'est là où, après, je vais dire, effectivement, ça ne semble pas si facile que ça à gérer. Alors, est-ce qu'on a une astuce pour les calculer facilement?
Bertrand, il faut, à la base, que je détruise une de tes croyances. Tu n'as pas encore utilisé un journal alimentaire et dans ta tête, ça semble déjà compliqué. Ce que je dis à mes clients, oubliez ça. Utilisez un journal alimentaire. Familiarisez-vous progressivement avec le journal. Entrez ce que vous consommez régulièrement. Vous allez devenir, à l'intérieur d'une période de quelques semaines, très habile à utiliser le journal alimentaire. Et ensuite, vous peaufinez. Vous y allez étape par étape. Mais la plupart des gens ne veulent pas le faire pour le commentaire que tu viens d'émettre.
Ouais, mais moi, ça fait.
Ils
moi, je
croient
l'ai tenu
que ça va
ans.
Être compliqué. Ils croient que ça va être compliqué. La réalité, teste-le.
Mais moi, j'ai tenu un journal alimentaire pendant 3 ans, en fait. Mais je n'allais pas jusqu'au détail des glucides, des protéines, de savoir ce qu'il y avait exactement dedans, etc. En tout cas, je notais tout ce que je mangeais parce que ça faisait partie aussi de pointer mes petits écarts, regarder quand est-ce que je mangeais un truc. Tout simplement pour se rendre compte qu'il y a des trucs que je mangeais qu'il ne fallait plus que je mange si souvent que ça. Hein. Tout simplement, ça fait partie des choses. Et notamment, moi, ma grande lutte, c'était d'arrêter le soda, les coca, les choses comme ça, toutes ces calories, tout ce sucre. Mais en tout cas, il y a un truc. Alors là, je sais que c'est une question qui y a des trucs à la mode quand même dans l'alimentation. Et j'ai une idée de la réponse, mais allons, on va tester un peu.
Testons, Bertrand.
Tous ces nouveaux régimes alimentaires, toutes ces nouvelles croyances, parce que je pense que c'est aussi des questions de croyances aussi, là encore. Hein. Paléo, céto, sans gluten, les jus, les végétariens, les véganes, etc.
Est-ce que je me suis endormi, Bertrand? Excuse-moi.
Oui, mais parce que la liste est longue. Paléo, j'ai dit paléo. Oui, j'ai dit paléo. On en fait quoi, tous ces trucs-là?
Ridicule. Les gens veulent une approche miracle. Ils se tournent tous vers une approche miracle, vers un « Ah, paléo, c'est fantastique. Ah, cétogène, ça a l'air extraordinaire. » La réalité, physiologiquement, le corps n'en a rien à foutre. Le corps a besoin de protéines, lipides et glucides. Et plus tu dépenses d'énergie, plus ton corps a besoin de calories, de protéines, de lipides et de glucides. Et si tu fais une diète stupide qui prive ton corps d'un macronutriment, tu n'obtiendras pas de résultats. Même si on te dit que cette approche est extraordinaire, que les meilleurs triathlètes au monde font la diète, pas tant de choses. C'est de la merde. La vraie question, consommes-tu l'apport en calories, protéines, lipides et glucides qui correspond aux besoins de ton corps chaque jour? Le reste, c'est de la foutaise.
Donc, j'imagine que le jeûne intermittent, on le met dans la même catégorie.
Oui, parce que le jeûne intermittent te prive. Explique-moi logiquement, Bertrand, comment un corps pourrait bien fonctionner quand on le prive d'énergie.
Moi, je ne suis pas capable de l'expliquer, mais en tout cas, ça fait partie de tout ce qu'on voit, de la littérature, des tests, etc. Mais c'est comme le sans gluten, finalement. On dit, tel sportif, il carbure au sans gluten. Les coureurs du Tour de France sont keto.
Blablabla. Non. La diète keto, OK? C'est consommer moins de 50 grammes de glucides par jour. C'est la vraie diète keto. OK? Je vais demander à n'importe quel athlète du Tour de France de me remplir un journal alimentaire et je serais vraiment étonné d'en trouver un avec moins de 50 grammes de glucides par jour parce qu'il ne ferait pas le Tour de France. Les glucides sont la source d'énergie la plus importante pour le corps humain.
Est-ce qu'il y a une... Parce que après, j'ai envie de dire, il y a aliment et aliment, quoi. C'est là où on parlait tout à l'heure, tu disais non transformé, hein. C'est là où aussi il y a une question de peut-être de qui est compliqué à apprendre pour les gens finalement de se dire il faut que j'achète quoi de l'aliment brut que je cuisine par moi-même que je prenne le temps de savoir d'où ça vient toutes ces choses-là en fait.
Je te dirais prendre le temps de savoir où ça vient. Lorsque tu as un aliment en boîte, ce que tu dois comprendre, c'est que tu as beaucoup de sucre raffiné, tu as plein de produits chimiques dont on ignore l'impact sur le corps humain. Donc je ne dis pas de ne pas en prendre. Je dis simplement d'y faire attention et d'aller vers des aliments plus complets, tout simplement. Des aliments que tu vas faire, poisson, viande blanche, un peu de viande rouge, une alimentation que notre corps peut bien supporter. Et tu parlais d'alimentation sans gluten. « Ah, moi, je vais couper le gluten! » Oui, mais as-tu une allergie alimentaire au gluten? Non, mais je vais couper le gluten. Sais-tu qu'en coupant le gluten... tu vas créer toi-même ton allergie alimentaire. Vois-tu, les gens ont des croyances, croient en toutes sortes de choses qui ne font aucun sens.
J'ai d'autres questions. Et alors, je vois que leur tourne en plus. Je me dis, bon, il faut qu'on avance quand même et tout, parce qu'on on blablate. Oui. J'ai des questions qui ont été posées. Alors, je suis en train de faire le tour. L'entraînement par intervalle... donc je l'ai dit, on en a parlé, hein, que l'entraînement par intervalle est bon. Alors, non, ça c'est, j'ai pris ça dans le livre, ou dans le site, c'est marqué. La croyance que l'entraînement par intervalle est bon pour tout, en tout temps, m'a fait me rebeller cette forme d'entraînement, écrit haut et fort que c'est une arnaque. Voilà.
Oui.
L'entraînement par intervalle est une arnaque. Pourquoi?
Je t'explique, Bertrand. Il y a des spécialistes au Québec qui travaillent sur l'entraînement par intervalle. Ils font des recherches extraordinaires sur l'entraînement par intervalle. Ce qu'une recherche scientifique te dit, elle te donne un contexte. Nous avons étudié des athlètes entre 18 et 25 ans. Nous les avons soumis à un programme d'intervalle de telle nature pendant 16 semaines et cela a permis d'améliorer davantage le VO2 max qu'un programme régulier. Ça, c'est une belle recherche. Mais quand la plupart des KIDAM voient une telle recherche, ils généralisent. Ils disent... ah, ils ont fait ça, ça veut dire qu'on va faire ça tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que si ça fonctionne chez des gens de 18 à 24 ans, que ça fonctionne chez des gens de 40 à 60 ans. Et ça ne veut pas dire que si ça fonctionne sur 16 semaines, que ça fonctionne sur 52 semaines. Tu comprends? Donc, on galvaude les résultats, on généralise les résultats et on ne tient pas compte du contexte de la recherche. Alors, c'est ça qui me fait vomir. Parce que le monde, les gens veulent performer et on leur fait croire que l'entraînement en intervalle ou fractionné, comme vous l'appelez, est la réponse en tout temps. C'est pas vrai. Faut réfléchir.
Ce qui voudrait dire, alors qu'on pourrait se dire, on peut en faire sur un certain nombre de semaines dans l'année. Et le reste du temps, finalement, on fait de l'endurance mentale pour faire progresser sa forme.
Voilà, voilà. Et tu sais qu'il n'y a aucune définition, il n'y a aucun consensus scientifique quant à la définition de ce qu'est l'entraînement fractionné. Je peux te dire, Bertrand, je te soumets à un programme. À 80 % de ta fréquence cardiaque, des intervalles de 10 minutes avec repos de 2 minutes entre chaque intervalle, chaque séquence, et je peux appeler ça de l'intervalle, ou je peux te dire du fractionné, ou je peux te dire, Bertrand, je vais te soumettre à des séquences d'entraînement à 95 % de ta vitesse aérobie maximale pendant 10 secondes avec des périodes de repos de 45 secondes entre, et je peux appeler ça du fractionné. il n'y a pas de consensus scientifique. Donc, à partir de superbes recherches effectuées par des scientifiques, il y a une quantité incroyable de gens qui vont inventer des formules d'entraînement en intervalle, disant que c'est la recette, la réponse à tout. C'est pas de la science. C'est pas de la science.
Alors, ce qui m'amène sur les intervalles, d'ailleurs, j'ai eu une question qui était posée sur la VMA. Et finalement, sur la question de... Est-ce qu'on s'y intéresse ou est-ce qu'on s'y intéresse pas, à cette histoire-là?
Ta VMA va te donner... nous permet d'estimer ton VO2 max. Il y a une relation entre ta VMA et ta vitesse de course, donc ta capacité de courir un 42 km, par exemple, ta vitesse à un 42 km. La relation est bien établie. Ce que je n'aime pas, c'est que ça me donne très peu d'informations sur qui est l'athlète. Je n'ai aucune information sur sa cinétique de consommation d'oxygène. Donc, je peux lui demander de faire un test Cooper de 12 minutes et arriver avec sa VMA. Mais qu'est-ce que j'obtiens d'autre? J'obtiens un chiffre qui ne me parle pas de son seuil d'échange gazeux, qui ne me parle pas de son seuil ou d'accumulation d'acide lactique. Donc, comment je l'entraîne? Je ne sais pas.
D'accord. Autre question qui a été posée sur alors les fréquences cardiaques. On revient sur cette notion de fréquence cardiaque. Comment est-ce qu'on fait pour tenir une fréquence cardiaque faible, surtout quand ça monte? Moi, j'ai mon idée de...
Hein? Tu ralentis.
Oui. Ralentir et marcher, hein. Moi, c'est ce que je disais dans des épisodes.
Ce que personne veut faire. Tous les athlètes d'endurance que je coach, si je dis ton seuil est 150 battements par minute, tu arrives à 151 battements par minute, tu ralentis. Et si ralentir veut dire marcher, tu marches. Aussi simple. À vous.
Oui, mais moi, je l'ai appliqué. Parce que donc hier, j'ai fait mon fameux trail et dans toutes les montées, moi, je marchais et je doublais les gens qui couraient à côté de moi. Donc, c'était assez amusant. Parce que en fait, effectivement, il y en a qui s'épuisaient et essayaient de monter en courant absolument. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que finalement, ils avançaient plus du tout ou ils étaient fatigués. Et en tout cas, sur les descentes et sur les plats, ils restaient bien derrière, avec une certaine fatigue. Et c'est vrai que cette notion-là, hein, sur les trails, c'est quelque chose. On en avait parlé dans un épisode récent d'ailleurs sur le fait que ça vient aussi beaucoup de ceux qui font beaucoup de routes, hein, et qui regardent beaucoup leur montre, qui courent beaucoup finalement à la vitesse, hein, au temps à la vitesse. On en revient sur cette notion-là et qui oublient de courir finalement. Finalement, c'est là où on revient sur la sensation finalement sur des chemins comme ça en disant je sens que je dois ralentir quoi, grosso modo.
Tout à fait.
Qu'est-ce que j'avais d'autre comme calcul? Ah oui, alors j'ai quelqu'un qui m'a posé une question. Et alors attention, il me dit c'est un peu tatillon, hein, voilà. Il parle de fréquence max de réserve et fréquence max de repos.
Oui. Il y a deux manières de calculer. Ta fréquence cardiaque de repos te donne une indication d'où tu débutes un effort. Donc, oui, ça peut être utile. Et normalement, les gens d'endurance qui, ça fait plusieurs années, ont une fréquence cardiaque beaucoup plus basse au repos. Donc, ce qu'on voit, mesurer la fréquence cardiaque maximale, il y a la formule standard 220 moins l'âge qui te donne une fréquence cardiaque avec plus ou moins 12 battements par minute. Et il y a la fréquence cardiaque maximale de réserve qui est une autre formule mathématique, si c'est ce dont il parle.
C'est ça,
qui te permet d'être peut-être un peu plus précis sur ta fréquence cardiaque maximale. Mais la réalité, Bertrand, c'est que même avec une formule mathématique, tu peux te tromper. Je te donne un exemple. J'ai un client que je teste. Sa fréquence cardiaque maximale est estimée à 182 battements par minute. Il me dit, Denis, lorsque j'arrive dans les côtes, je m'épuise rapidement et je ne comprends pas pourquoi. Alors, on fait un test et on pousse. VO2 max, on pousse, go. Et sa fréquence cardiaque maximale n'est pas de 182 battements par minute. Elle est de 162 battements par minute. Il a une réserve cardiaque de 20 battements par minute. Qu'est-ce que cela veut dire? que normalement, son cœur aurait dû pomper jusqu'à 182 battements par minute pour lui permettre de répondre à la demande énergétique. Mais en réalité, à 162 battements par minute, son cœur arrête. Ben, pas il arrête au sens pip, zéro battement. Il se maintient à 162 battements par minute. Et plus lui augmente l'effort, plus il crée une dette d'oxygène et il s'épuise. Mais si son cœur avait réussi à pomper jusqu'à 182 battements par minute, il aurait pu monter la côte facilement. Donc, les formules ne te permettent pas de découvrir des particularités comme celle-ci, qui sont ignorées de la plupart des gens.
Et le moyen de le vérifier, c'est quoi? C'est aller faire un test en labo, de courir
sur... Non! Moi, ça se fait à distance maintenant. Tu as une montre, une Garmin, une Polar. Les gens téléchargent le protocole, font le test sur le tapis, m'envoient les résultats, m'envoient leur fichier TCX. J'envoie ça dans ma moulinette, ça me sort mes courbes, je fais mes analyses, j'envoie le rapport.
D'accord. Bah, comme quoi, hein, la technologie permet de faire beaucoup de choses. Parce que
c'est magnifique.
On a l'impression qu'il faut aller faire des tests en labo, des tests d'effort, etc.
C'est certain que si tu étais un athlète d'élite et que tu voudrais... T'as vraiment de petits détails à peaufiner, je te dirais, va faire un test en laboratoire et envoie-moi les résultats. Mais pour 95% de la population, le test que je propose fonctionne très bien, merveilleusement bien.
Oui, alors c'est vrai qu'en plus, on voit maintenant, alors je sais pas, je pense qu'au Canada, c'était avant nous, mais on voit maintenant des entreprises hein, qui montent, qui disent, ils font des tests, etc., des sortes de, je sais pas comment on peut appeler ça, des sortes, pas de cliniques de course, mais des centres de sport qui vont dire, on va faire des tests, on va vous accompagner, y compris pour du coureur, finalement, qui n'en aurait pas besoin.
Je réfère généralement par année quelques clients à la clinique Monstade à Paris. Un des meilleurs centres de performance, je pense, de votre côté de l'Atlantique. J'ai reçu quelques rapports qu'ils m'ont envoyés, ils font ça à la perfection. C'est vraiment, les rapports que j'ai obtenus, c'est probablement les meilleurs au monde que j'ai vus.
Et ça, c'est intéressant ou pas, finalement, pour un coureur autre que le haut niveau?
Écoute, c'est intéressant si tu es bien coaché. Tu comprends? Tu peux aller faire un test, tu obtiens les résultats, mais je fais quoi avec les résultats par la suite? S'il n'y a personne pour te le dire, va pas faire le test. Et si ton entraîneur n'a aucune idée de ce que ça représente, va pas faire le test pour « Ah, je crois qu'on va faire ça comme ça. » Non. Sors-moi un rapport et dis-moi ce que je fais avec ça maintenant.
Alors, j'ai une dernière question, puis après on va se quitter parce que ça va être bientôt l'heure de vaquer chacun nos occupations. Moi, c'est un cas vraiment à moi. Hier, donc, j'ai fait mon trail de 28 km, j'arrive à la fin de la course, j'ai faim. Mais j'ai vraiment une grosse faim. Hein. Qu'est-ce que je mange après pour bien récupérer? Parce que là, quand même, ça fait partie des questions, parce qu'on a parlé de la nutrition, de l'importance de la nutrition. Comment on récupère bien de ça?
Il est trop tard pour toi pour récupérer parce que tu as couru à jeun.
Ah non, hier, j'ai pas courage.
Non. As-tu consommé des aliments ou des nutriments pendant ta course?
Oui.
Combien de calories? Combien as-tu dépensé de calories pendant ton 28 km?
Il faudrait que je regarde ce que me dit mon ami Polar. Je regarde en vitesse, hein, à combien j'en suis, en estimation. Je fais ça en direct. Hein.
Oui.
Activité. Ouh là là. 2574.
Non. OK. Et 2574, t'es un homme de quel âge, quelle grandeur, quel poids?
Ça se demande pas. Non, moi, j'ai 44 ans, environ 80 kilos, 1m83.
OK. Donc, ajoute à cette dépense énergétique environ 1900 calories. Donc, nous sommes à approximativement 4400 calories. Combien de calories as-tu consommé dans ta journée?
Bon, alors là, c'est vrai que je ne tiens pas mon journal, je suis incapable de le dire. J'ai fait un bon petit déjeuner, mais peut-être pas assez gros, en fait, je me dirais. Mais après, je suis incapable de le dire parce que c'est vrai que j'ai pas mesuré après. Et puis, on nous a donné des barres de céréales qui font 40 grammes ou des choses comme ça. Donc, il y a pas beaucoup, j'ai envie de dire.
Donc, il aurait fallu que tu consommes davantage de calories pendant ta course. tu as dépensé 2500 calories pendant ta course. J'aurais aimé voir un apport calorique de 1800 à 2000 calories durant ta course et combler le reste à ton arrivée avec des glucides, des lipides.
D'accord. Donc, c'est très simple, en fait, l'alimentation, vu comme ça.
C'est très, très simple. C'est vraiment très simple. Effectivement. Mais tu vois, il est trop tard. Tu as brûlé tes réserves énergétiques. Tu as vidé tes réserves énergétiques. Et tu arrives et tu veux compenser. La réalité, c'est que tu dois entretenir pendant que tu cours tes réserves énergétiques. Et donc, tu entretiens tes réserves énergétiques et tu arrives après la course. S'il y a un certain déficit, tu le combles. Donc, tu ne crées pas de stress physiologique. Mais arriver et tenter de tout combler par la suite, c'est une erreur.
D'accord. Et alors, j'ai une dernière question pour finir. Sur les histoires de récupération, il y a peut-être des choses hein, qui sont importantes, qui sont notamment sur tout ce qui est massage, des gestes d'automassage pour est-ce qu'on récupère mieux? Est-ce que les étirements, ça sert à quelque chose? Est-ce que la cryo, par exemple, ça servirait à quelque chose ou pas? Est-ce que tous ces trucs-là, il y a du fondement ou est-ce que finalement c'est aussi ça fait partie aussi des choses qui font croire que il y a des solutions miracles à la récup?
Non, eh ben en fait, il n'y a pas de solution miracle. Ça te prend un apport en calories, ça te prend du repos suffisant entre les séances d'entraînement. Le massage va aider à diminuer les tensions musculaires, ce qui est très, très bien. La cryo, j'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu de recherche sur l'impact de la cryo sur la récupération. Donc, je ne pourrais rien te dire d'intelligent à ce sujet.
Et l'automassage, donc, c'est une bonne idée. Parce que c'est la question d'un coureur qui me dit « J'ai dans mon village une kiné qui propose des leçons d'automassage pour la relaxation. Est-ce qu'il y aurait des gestes hein, spécifiques à faire quand on est coureur, quand on va courir comme ça? Est-ce que, on va dire, faut masser un certain temps, un certain moment ou... ?»
Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre du temps pour m'étirer. Donc, je te dirais, en revenant de la course... Personnellement, j'aime beaucoup prendre un 15-20 minutes pour les étirements.
D'accord. Alors, j'avais une dernière question qui était là. J'avais totalement oublié. Quelqu'un qui me dit, est-ce que finalement, il y a des athlètes ultra-endurance, etc., de assez haut niveau, hein, ou d'un bon niveau, qui ont fait des grandes courses comme ça, qui suivent un petit peu tous les préceptes dont on vient de parler, qui appliquent ça, c'est-à-dire qu'ils sont finalement rendus compte qu'en courant plus lentement, ils arrivaient à faire beaucoup plus de distance, beaucoup moins de fatigue. Qui c'est qu'on pourrait donner en exemple, j'ai envie de dire un petit peu, parce que les gens, ils aiment bien avoir des exemples un petit peu. Alors moi, j'en ai toujours un, parce que j'ai lu sa biographie, c'est Rich Roll, qui le dit dans son livre, dans sa biographie, que son entraîneur lui a dit « ralentis, si tu veux performer en Ironman ». Il lui a dit clairement, il lui a dit « zone 2, zone 2, zone 2 hein, », toujours s'entraîner dans la zone 2.
Voilà.
Est-ce qu'il y en a d'autres, finalement, assez connus, ou que toi, tu aurais entraîné, tu pourrais citer en disant « j'ai des personnes qui sont... » Donc, c'est intéressant
de
regarder.
Les athlètes, ceux qui sont allés faire des courses d'ultra-endurance ont tous travaillé dans cette orientation, de travailler dans la zone en deçà du seuil d'échange gazeux. Moi, je le vois régulièrement publié. J'ai pas la mémoire des noms, mais j'ai plusieurs athlètes que j'ai vus et qui m'ont écrit pour me dire « ce que tu as écrit dans ton livre, c'est exactement ce que j'applique ». Donc, oui. Et ce que tu dois comprendre aussi, c'est que les gens confondent vite. Parce que le livre... Je me suis rendu compte que le titre portait à confusion parce que je disais courir lentement. Mais courir lentement est en relation avec la physiologie. Courir lentement, c'est courir dans ton seuil. Un Kenyan qui court le marathon en 2 heures, 3 minutes, il court à 90 % de sa capacité aérobie maximale, de son VO2 max, mais il est dans sa zone, il est en deçà de son seuil d'échange gazeux. Tu comprends? Lui, sa zone d'endurance est extrême, est presque au maximum de ses capacités physiologiques. Donc, nous, il court vite, mais lui, il court lentement sur le plan physiologique. C'est ça la différence. Donc, la vitesse n'est pas absolue. La vitesse, c'est vraiment, c'est quoi son impact sur notre physiologie?
C'est ça. En fait, voilà, je pense être une très bonne conclusion de dire finalement la vitesse, le lentement est relatif à notre niveau, à notre état de forme, à notre capacité, à ce qu'on est capable de faire en fait.
Voilà, exactement, exactement.
Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs que toutes les notions de surendurance mentale, à quelle vitesse je dois courir, etc., sont très compliquées d'ailleurs à cerner pour les gens. Et c'est les questions que j'avais, hein, c'est combien de temps est-ce qu'on arrive finalement à savoir à quelle vitesse on court à la bonne vitesse?
Ben, au moment où tu as fait un test de VO2 max, tu obtiens un rapport, tu sais exactement où se situe ta zone.
Voilà. Et après, aux sensations, on apprend à comprendre un petit peu comment on fonctionne et à quel moment on y est.
Le plus simple, si tu es soufflé pendant que tu cours, tu es dans ta zone d'utilisation des glucides. Parce que la transition du seuil d'échange gazeux à l'utilisation des glucides se traduit par une augmentation de la fréquence respiratoire. Donc, quand tu es dans ta zone d'échange gazeux, dans ton seuil d'utilisation des lipides, c'est ton amplitude respiratoire, la dilatation de ta cage thoracique qui va augmenter. Et lorsque tu transites vers l'utilisation des glucides, c'est ta fréquence respiratoire, l'essoufflement. Donc, c'est une bonne manière de l'observer de façon qualitative.
Et ben voilà. Et ben je pense on a fait un bon tour de la question. Hein. Il y aurait énormément de choses à dire et tout. Moi j'ai regardé le site. Et puis quand on regarde les formations, quand on regarde tout ce qu'il y a sur ton site, il y a énormément de choses. Hein, faut le dire. On peut te suivre où? Je mettrai bien sûr tous les liens, mais pour retrouver toutes ces informations là, pour aller plus loin.
DenisBoucher.com. Aussi simple que ça.
Ouais, et dessus, alors je le dis parce qu'il y a plein de formations sur maigrir intelligemment, comprendre et mieux gérer l'hyperphagie d'ailleurs, on aurait pu en parler, hein, ça fait partie, puis il y a une belle photo de quelqu'un qui a la tête dans le frigo.
Oui, c'est ça. Vous avez dans la section vidéo, vous allez voir la formation qui est accessible, qui est « Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps », où j'explique ce dont on vient de parler. Donc, si les gens veulent l'avoir plus concrètement, le comprendre plus concrètement, il y a une formation, je crois, d'une quinzaine de minutes sur le sujet.
Mmh. Et donc, il y a d'autres choses aussi, notamment sur comprendre et gérer la fatigue physique et mentale. Hein. On a dit que c'est important que ça rentre aussi dans ces questions-là. Finalement, on l'oublie, hein, tous ces aspects-là. Je finis de faire un tour. Après, bon, il y a tout un tas, et notamment pour ceux qui sont intéressés, parce que j'en ai beaucoup qui sont intéressés par l'ultra-endurance, dont moi le premier, devenir un coureur d'ultra-endurance, le guide ultime. Et là, j'imagine qu'on retrouve tout ce type de conseils, comment est-ce que on imagine la stratégie pour mettre en place tout ça, hein, j'imagine.
Oui, tout à fait. Tout à fait. T'as une autre formation sur la nutrition sportive pour l'endurance. Tu as une autre formation sur l'entraînement fractionné. Donc, si vous voulez mieux comprendre, mieux utiliser l'entraînement fractionné, il y a une formation sur le sujet.
Voilà. Et eh bien, je pense qu'on a fait un très bon tour. Et bien sûr, ben après, s'il y a d'autres questions, ils te contactent.
Tout à fait. Bertrand, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Très agréable.
Ben merci à toi, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je t'entendais parler sur Nakan, etc. Et il y avait plein de questions, on était un petit peu impatients de savoir un petit peu ce qui se racontait. Et puis comme on est plein, nous on est les hamsters hein, dans notre club, c'est-à-dire qu'on est tous, on s'est tous remis à courir un jour ou l'autre. Et donc toutes ces questions qu'on a abordées là, on les a tous rencontrées un jour ou l'autre. Et c'était très intéressant aussi de comprendre comment c'est. Notamment parce que le cas de on se met à courir alors qu'on a une famille, des enfants, est-ce qu'on va courir à la frontale, est-ce qu'on va courir à l'auto, est-ce qu'on dort, etc. Toutes ces questions-là, on se rend compte quel est l'impact qu'elles ont finalement sur tout un tas d'éléments dont on n'a pas forcément conscience comme ça. Et c'était extrêmement intéressant d'en parler.
Merci.
Merci beaucoup en tout cas. Et en tout cas, peut-être qu'on fera une suivi un jour, dans un an ou deux ans, on verra comment les uns on progresse.
Quand tu veux.
D'accord, ça marche. Moi, je prends mon rendez-vous et en tout cas, je vais y repenser parce que là, c'est ma semaine de repos. Cette semaine, mon coach m'a donné une semaine de repos après le trail. Donc, je vais en profiter pour dormir et pour me reposer parce que je sais à quel point c'est important. Et en tout cas, merci encore beaucoup, beaucoup pour cette discussion qui était très, très, très intéressante. Et nous, les hamsters, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch? Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.